Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement en podcast ou en direct, et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Bruno Donnet pour sa rubrique Télescopage, miroir grossissant braqué sur nos écrans par ses soins. Nos invités, les rappeurs du groupe IAM, Akhenaton et Shuriken, pour leur nouvelle EP Deuxième Vague, et ils annoncent également une tournée. Lisa Marie Marquez va nous dresser leur portrait pré-fame, ce qui leur est arrivé avant la célébrité. Puis en fin d'émission, Marc-Antoine Lebray pour ses stories. Bonjour Margot Barallon.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Bonjour Charlotte Langrand.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Et bonjour Bruno Donnet.
Bonjour Philippe.
Tous les trois dans ce studio avec nous. Tous les jours Bruno, vous avez les yeux rivés sur le travail des médias, mais le vendredi, c'est un peu le jour du bilan. Et ce matin, votre mash-up de la semaine est placé sous le signe de la maladresse.
Oui, elle avait pourtant pas si mal commencé Philippe hein, cette semaine, car comme nous l'annonçait M6 dimanche, toute la France du football était en émoi.
Un salut en direction des caméras. Le roi Messi est arrivé à Reims.
Messi, dans l'Hexagone, on allait se régaler. Mais non. Tout n'était qu'illusion et la première maladresse me saute à haut tympan lorsque je découvris que parce que le match se déroulait à Reims, tous les journalistes avaient opté pour la même vanne. À de la télévision, M6 faisait péter le bouchon.
Champagne à Reims ce soir.
Tandis qu'à la radio, France Inter nous en mettait un verre.
C'est ce qu'on appelle ici à Reims le football champagne.
Mais pendant que Messi créait l'effervescence de toute une profession,
150 journalistes ont fait le déplacement pour suivre ses premiers pas avec le PSG.
Le directeur du festival de photojournalisme Visa pour l'image voyait sur France Info, dans cette hyper-concentration, au-delà de la maladresse, une forme d'indécence.
Les journaux, bon, effectivement, ont de moins en moins d'argent, mais... Quand on voit un drame comme le tremblement de terre à Haïti, qui est totalement éclipsé par l'arrivée de M. Messi au PSG, et là, tous les journaux ont de l'argent pour couvrir M. Messi, ça m'énerve un peu et ça me rend fou.
Tâtelé au foot, je décidais de changer de registre et de station de radio. Lundi, RTL s'intéressait au pass sanitaire et à ses salariés qui, contraints de montrer patte blanche pour aller bosser, avaient attendu le plus longtemps possible pour se faire vacciner.
Elle était réticente à la vaccination et puis elle l'a fait.
Mais, me croyant personnellement immunisé contre à peu près tout, je ne me méfiais donc pas et c'est là que j'allais prendre dans les feuilles la plus délicieuse petite maladresse sémantique de la semaine.
J'attendais vraiment d'être au pied au mur pour le faire.
Pied au mur pour se faire vacciner, il y avait de quoi hésiter. Mais le plus maladroit cette semaine, je l'ai trouvé sur France 2, au pied du mur, dans l'émission de Faustine Bollard.
Vous pouvez me présenter la femme qui est derrière vous ?
Priée de nous présenter son épouse, un de ses invités lui a répondu ça.
Oui, la femme qui est derrière moi, c'est ma femme actuelle.
Faustine l'a donc immédiatement cadrée.
Juste pour information, on ne dit pas ma femme actuelle. Ah. C'est assez maladroit.
Seulement voilà, quelquefois, on a beau faire des pieds et des mains, le mur est là et on y va.
Je présente ma femme.
Très bien, on refait, voilà. Super.
Que j'aime beaucoup d'ailleurs.
Non, alors on dit que j'aime tout court. Non, on dit pas que j'aime beaucoup.
Enfin, pour terminer, Philippe, c'est maintenant moi qui ai un peu peur de me montrer maladroit. Car dans mon conducteur, il est inscrit que je dois encore vous dire un mot de...
Plus il y a d'Afghans, plus les femmes françaises sont en danger.
Éric Zemmour. Wow. Seulement voilà, je n'ignore pas qu'on est sur Europe 1. Du coup, avant de vous confesser qu'il était lui aussi dans la semaine des gens en gauche, eh ben... j'ai les chocottes. Car il a beau nous dire qu'il n'est pas susceptible.
Mais non.
Le gars sera peut-être bientôt carrément président. Et vu d'où il part, vu son métier actuel, celui en tout cas qu'il a revendiqué sur CNews.
Moi, je suis comptable.
Ça fait réfléchir. Mais trêve de plaisanterie, Philippe, Éric Zemmour a eu beau suspendre sa collaboration avec Le Figaro mercredi. On n'en sait toujours pas plus long sur ses intentions. Car figurez-vous qu'il a trouvé que la question... très direct, que lui a posé un reporter de LCI.
Vous êtes candidat à l'élection présidentielle ou pas ?
Oh, vous attaquez fort, vous, moi.
Était beaucoup trop maladroite.
Mais non,
c'est pas à vous que je vais le dire.
Du coup, pour la réponse, on peut toujours se brosser, alors ? Eh bien alors, comme on dit dans l'amour et dans le pré...
Ah merde ! Oh, quel dommage ! Oh putain, merde ! On se voit la semaine prochaine.
Bah oui, va falloir patienter.
Quel bilan de la semaine, merci Bruno Donnet, à lundi. Margot, Charlotte, quelle contraction. Charlotte Langrand, votre indispensable aujourd'hui.
Je vous fais un petit voyage gastro-temporel avec un film délicieux qui sort mercredi, qui parle des premiers restaurants, de leur création, mais aussi qu'on y apprend que les goûts à l'époque, en 1789, n'étaient pas du tout les mêmes que maintenant, notamment à propos de la pomme de terre.
Margot Barallon, bleu programme.
Eh bien, on va parler de Jeunes et Gaulerie, une
trop
série
bien.
Jeune et rigolote, donc, et puis meilleure série française au Festival Sérimania quand même. Et c'est très bien, et c'est mérité.
On est dans l'actu, dans un instant, c'est le groupe IAM qui sera dans ce studio. Alors on va se mettre dans l'ambiance dès maintenant. On va entendre un titre extrait du EP Première Vague qui vient de sortir, IAM Feeling.
9h, 9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Ils sont pas tous là, mais quand même, bonjour Ayam, en l'occurrence, bonjour Akhenaton.
Bonjour.
Bonjour Shuriken.
Salut.
Deux des figures d'Ayam, les mêmes depuis le début, depuis 30 ans, un son qui n'a pas vieilli, qu'on peut toujours écouter maintenant sans se taper la honte.
Comme ma figure.
Comment comme votre figure. Votre actualité, c'est une énorme tournée qui va démarrer le 19 octobre pour finir le 25 novembre, rien qu'avec les dates que j'ai, je vais donner les dates tout à l'heure. La sortie d'un EP qui s'appelait Première Vague est déjà disponible. On vient d'entendre le titre Feeling qui en est issu. Et puis le 17 septembre, donc la semaine prochaine, ou dans 15 jours, va sortir un deuxième EP qui s'appelle Deuxième Vague, Première Vague, Deuxième Vague. Vous n'avez pas dit Seconde Vague, donc il y aura une troisième, une quatrième. On sent l'album qui va arriver. Il y a combien de vagues encore et quand va sortir l'album et combien de titres?
Clairement, 4 vagues.
Clairement, 4 vagues de 6 à peu près.
6 fois 4, 24.
Voilà.
Et il y aura peut-être encore des bonus.
Ça fait un bel album.
Il y aura des bonus parce qu'on est repassé en mode indépendant, donc on a travaillé tout dans notre studio et on a la chance de pouvoir avoir l'outil qui nous permet d'enregistrer des morceaux. À un moment donné, on a eu plusieurs de nos tournées annulées. Et du coup, plutôt que de tourner l'aigreur en tête, on a choisi de construire. On s'est rassemblé en studio, on a fait des sons, on a écrit des morceaux, on a enregistré des titres et puis voilà, on les
s'est enfermé au studio.
Mais le studio, il existait déjà.
Enfermé.
Vous l'aviez ce studio. Ouais, enfermé. Vous l'aviez déjà ce studio, il était déjà à vous.
Oui.
On avait déjà la structure. Mais c'est vrai que c'est un vrai luxe quand on a un endroit comme ça pour la création, c'est un vrai luxe.
Vous l'avez dit, l'album est autoproduit, plutôt que soit la maison de disques qui s'en occupe ou le label. Qu'est-ce que ça change pour nous auditeurs? Et pour vous, mais surtout pour nous, puisqu'on fait des disques pour les gens.
Pour les auditeurs, pas grand-chose. Quelquefois, un peu moins de moyens pour faire des clips, mais ça change pas grand-chose. Au niveau du son, au niveau de la musique, pas grand-chose.
Au niveau du compte en banque,
c'est mieux. C'est mieux parce que aujourd'hui, avec le streaming, il faut savoir que les artistes sont très peu rémunérés sur les streaming quand ils sont en maison de disques et que forcément, quand on est en indépendant, c'est mieux. Après, forcément, il y a des points qui sont beaucoup plus compliqués. On doit tout financer soi-même. Puis des fois, ça fait. En fait, c'est une sorte de boucle. On se connaît depuis suffisamment longtemps. Tu sais très bien que le premier album Concept en 1989, il était autoproduit aussi. On avait un peu moins d'argent.
J'allais dire dans les mêmes conditions, mais non.
Ouais. Mais après, il y a eu deux labels, il s'est passé plein de choses. Est-ce qu'il y a un fil directeur dans cet album, ou est-ce qu'au contraire, comme disent les footballeurs, qui prennent les matchs un par un, vous avez pris les titres un par un?
Plutôt un par un, hein, Joe.
Ouais, mais en même temps, on s'est enfermé pendant une période assez longue. On a tout écrit d'un bloc. On n'a pas écrit non plus des morceaux, genre séparément, genre un morceau par semaine, un morceau tous les trois jours. On était vraiment ensemble pendant tout ce temps-là. Et donc ça, je pense qu'il y aura quand même la cohérence d'un album.
On a soigné l'objet. Ça, il faut le signaler, c'est-à-dire c'est un quadruple vinyle avec un très beau coffret.
Alors, vous savez quoi? Je l'ai, le très beau coffret. Voilà. Il est tellement beau que je n'ai même pas osé retirer le blister.
Ouais, il est beau, il est gravé en couleur un peu cuivrée.
Mais il y a quoi à l'intérieur? Il y a déjà les quatre vinyles?
Là, dedans, tu n'en as qu'un. Et en fait, au fur et à mesure que les vinyles sortent, tu peux le remplir et faire apparaître les tranches.
Le deuxième EP va sortir le 17, mais depuis ce matin, il y a un titre qui est disponible pour tout le monde. Alors, c'est celui qu'on a choisi. Le titre s'appelle Rap Inconscient, extrait.
Me range pas dans les cases, je suis libre comme tonton Im, l'oncle Chou, pas l'oncle Tom. C'est du rec dit, Jacques donne. L'honneur c'est dans le sang, clan Zakaria et Jack Don. Me charge pas de devoir, me charge pas de mission. N'étiquette pas mes rap, n'étiquette pas mes sons. Ça fait tellement de temps que je le rabâche bon sang. Sans vie, sans calcul, sans plan, rap inconscient. Dans nos versets, rap controversé. Rap inconscient. Les batteries sont rechargées pour abattre le beat. Niveau sonore abusif. Rap inconscient. Pire que langage modifié dans un artifice de mots. Rap inconscient. Violent comme un coup de balle. Mike Myers. Black, ça rame pas. Rap inconscient.
C'est du rap comme j'aime à l'instinct. Rien de prévu à l'avance. Tout se fait dans l'instant. Demain reste loin, je vois leur case et je reste à distance. Invisible est mon encre, comme le sable, je ne tiens pas dans leurs mains. Tu vois, son rap, c'est comme l'air, j'en ai besoin pour vivre, j'en ai besoin pour rire, j'en ai besoin pour.
Ce titre m'a vraiment intrigué et je me suis dit, mais c'est quoi l'idée de cette chanson? Est-ce que c'est un pied de nez aux journalistes qui précisément trouvent que l'une de vos qualités, c'est de faire du rap avec conscience?
C'est un peu ça. Hein, mais c'est pas que des journalistes, c'est-à-dire que nous, en fait, on a envie d'assumer le fait que le rap soit né d'une culture de distraction, que ce soit une musique d'entertainment. Entre 70
Ah bon, c'est pas né d'une colère?
Non, entre 70 et 82, c'est une musique de club. Et ça devient une musique de colère par la suite. Mais c'est vraiment du disco alternatif et c'est vraiment une musique de distraction.
Et les paroles sont vraiment au second plan ou au troisième plan.
Mais. Ouais, où elles sont là pour animer la soirée. Mais en fait, ce qu'on dit dans le titre, c'est que on a cette culture-là en nous et que des fois, on peut faire des morceaux légers aussi. Ouais. Et je pense que en fait, c'est un morceau contre on va dire un monde binaire. Et je pense que la binarité est dangereuse pour tout. Quand on donne deux choix, l'humanité est magnifique, le monde est magnifique, la vie est magnifique quand elle est plurielle et qu'elle est diversifiée, qu'elle ressemble à une mosaïque, on s'approche, on voit les différences. Puis quand on regarde loin, ça fait un bel ensemble. C'est ça qu'on voulait dire. On n'a pas envie d'être rangé dans une case de rappeur politique.
C'est un peu la vie qu'on a depuis la scène aussi.
Ouais, exactement.
Avec les gens.
On n'a pas encore parlé de scène, on n'a pas encore parlé de vos débuts, ça tombe très très bien, l'émission n'est pas terminée, Lisa Marie Marquez arrive dans Culture Média, c'est le portrait pré-fame de nos invités, à tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Ayam dans ce studio, bonjour Lisa Marie Marquez.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous êtes avec nous pour le portrait de nos invités. Aujourd'hui c'est une première, c'est un double portrait inédit, celui de nos deux invités avant leur célébrité.
Eh oui, bonjour Akhenaton, bonjour Shuriken. Vous êtes membre du groupe Ayam, pilier et pionnier du rap français. Vous avez plus de 30 ans de carrière, 10 albums et des centaines de concerts au compteur. Vous avez même collaboré avec Beyoncé et chanté devant les pyramides de Gizeh. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va revenir ensemble sur vos parcours respectifs.
Effet.
Akhenaton, Shuriken, vous êtes tous les deux nés à Marseille. L'un a grandi à Plan de Cuc, un village tranquille sur les hauteurs de Marseille en pleine garrigue. L'autre dans les quartiers d'Herbel et de la Blanca, puis à Aiguillères, un village des Alpilles. Je commence par vous, Philippe. Chill, Akhenaton, Akash, vous êtes d'origine italienne. Enfant, vous étiez très curieux et vous avez aimé l'école jusqu'au collège où vous avez commencé à vous y ennuyer. Vous avez découvert le rap à l'âge de 12 ans grâce à un copain d'enfance, Lorenz, qui vous offre un disque de Sugar Hill Gang. À partir de là,
la réaction des deux à l'écoute de ce titre. Vous n'attendiez pas à ça ce matin.
Non, c'est quand même un monument du rap.
Elle vous accueille.
À partir de là, vous ne décrocherez jamais plus du rap dans le casque de votre Walkman, puis vous deviendrez un auditeur assidu de l'une des premières émissions de rap à la radio, Starting Black, animée par Philippe Subrini sur Radio Star, une radio associative marseillaise. Autre influence dans votre jeunesse, les États-Unis. Vous vouez une véritable fascination pour le pays de l'oncle Sam, à tel point que ça vous fera même changer vos ambitions. Vous ne voudrez plus devenir paléontologue, mais flic à New York, la faute à...
C'est vrai.
Non, je voulais pas être flic à New York. En fait, l'attirance pour New York a été très liée au rap, en fait.
D'accord.
Et ça s'est renforcé. Après, on va dire aussi, c'est un double truc culturel. Je partais à Naples tous les étés. Et je rencontrais ma famille américaine à Naples. Et nous, on avait un petit côté à Marseille ou à Naples, un peu tiers-mondiste. Et on voyait nos cousins américains. Ils étaient tellement dans le futur. On s'est dit, mais il faut qu'on y aille. On les a bien rattrapés.
Avant-gardiste, même dans la mode, dès le collège, vous mettez à porter une casquette à l'américaine, ce qui n'était pas commun à l'époque. À l'âge de 16 ans, vous découvrez New York pour la première fois avec votre tante Gérard qui vous avait fait la promesse de vous y amener. Ouais. Vous vivez un rêve éveillé et vous tombez amoureux de cette ville où vous retournerez très souvent. De retour à Marseille, vous vous investissez corps et âme dans l'univers du hip-hop, sauf la danse que vous abandonnez très vite.
Je n'avais aucune skills pour la danse, aucun talent pour la danse.
Ce sera le tag, le graphe et bien sûr le rap. Vous commencez à écrire, à composer et en classe de terminale, vous préférez rapper plutôt qu'aller en cours après 62 absences, c'est ça?
C'est un peu ça, en fait. Je m'ennuyais un peu à l'école et bon, j'étais très bon en sciences nat, donc j'avais la chance d'avoir des très bonnes notes, ce qui m'a valu d'ailleurs que la fac de médecine me demande de faire une première année en cursus accéléré en 6 mois. J'ai refusé, je crois que j'ai bien fait. Je m'ennuyais, ça me correspondait pas à l'école. Et je choisissais mes cours, en fait. Il y avait certains où j'allais pas. À la grande déception de mes parents, les pauvres, ça a été dur pour eux.
Alors vous passez le bac avec succès en candidat libre, vous intégrez la fac de sciences, mais seulement pour 3 mois. Vous êtes happé par la musique, vous rappez ainsi avec vos premiers groupes, les Lively Crew, puis les B-Boy Stans. Vous, Shuriken, Geoffrey, Joe, ce qui a rythmé...
Geoffroy. Commencez pas.
Geoffroy, pardon.
T'es jamais pour 6 mois avec ça. Oh, sérieux. Il va me tuer pendant 6 mois avec ça.
Joe, quand vous ne pratiquiez pas ces sports, vous étiez scotché devant les films de Bruce Lee, de Jackie Chan et de Billy Wong, notamment Black Jim va tout casser. Ou Black Jim, le magnifique.
Je l'ai retrouvé.
Ah bon?
Je sais pas ce que...
Vous l'avez regardé?
Au garage, non, elle passe plus.
Il a une collection de films.
Je suis retombé dessus il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas osé le sortir.
En fait, c'est que la jaquette, ça ne sert à rien. Ouais. Lisa Marie.
Et puis, il y a eu aussi ce film qui vous marquera beaucoup, Le Dernier Dragon. L'histoire d'un jeune homme noir et timide qui veut devenir un maître des arts martiaux comme son idole Bruce Lee. Et ça, c'est l'une des musiques de la bande originale.
Le film, se regardait vite fait, c'était plus la BO qui nous, parce qu'il y avait beaucoup de morceaux.
Et la musique funk aussi qui vous influence beaucoup. Ouais. Et vous, ce qui va vous conduire au rap, c'est la danse. Vous participez d'ailleurs à des concours de funk, puis à des concours de breakdance, en vous inspirant du héros au t-shirt rouge du film Breakstreet 84 qui danse en battle sur cette musique.
Les vrais reconnaîtrants, celle-là.
Ah ouais.
Vous êtes en parallèle chaudronnier à Marseille, vous travaillez et vous dansez avec votre groupe de hip-hop, les Flash Breakers.
Je fais les deux séparément.
Vous travaillez et vous dansez, t'imagines le chaudronnier.
Pas en même temps.
Il fabriquait des armes de jet japonaises pour les soirées breakdance.
Et puis un jour, dans le métro de Marseille, à la station Rose, alors que vous êtes sur une mission de maintenance dans le cadre. Dans le cadre de votre métier de chaudronnier, vous croisez Akhenaton. Alors vous l'abordez pour lui dire que vous l'avez vu en concert avec les B-Boy Stans, que vous aussi vous écrivez des textes et que vous aimeriez lui faire écouter. Vous vous retrouvez chez Djali du groupe de reggae Massilia Sound System. Shuriken, vous mettez à rapper. Et là, Akhenaton, vous savez que vous avez trouvé votre alter ego. Shuriken, vous rejoignez naturellement l'aventure B-Boy Stans qui deviendra en 1988 le groupe IAM, un nom qui tire son origine de la marche pour les droits civiques des Afro-Américains, où les manifestants arboraient des pancartes « I am a man », « Je suis un homme ». Vous sortirez une première cassette démo baptisée Concept en 1989, que vous enverrez à des journalistes parisiens en écrivant pour vous présenter « I am le meilleur groupe de rap français ».
Le
meilleur des quatre groupes français.
Il faut le faire.
Cette cassette Concept vous permettra de vous faire remarquer. Quelques mois plus tard, vous signerez avec une maison de disques et vous ferez la première partie de Madonna à Bercy, une salle de spectacle à la forme pyramidale.
J'ai jamais vu autant de Madonna ce soir-là. Il y avait les 20 premiers rangs, c'était que des Madonna.
Ouais, c'est vrai, en plus, il y a une grosse identification du public.
Votre premier album studio de la planète Mars sortira un an plus tard, la machine IAM est lancée, la suite on la connaît et moi je m'arrête là.
Eh bien, ça va les RG?
C'est impressionnant, non?
C'est une belle aventure, une aventure humaine, parce qu'il y a les autres membres aussi qui sont venus nous rejoindre à différentes époques. On s'aperçoit que dans la vie, il faut avoir de la persévérance, croire en ce qu'on fait, mais il faut avoir de la chance aussi. Et c'est fait de rencontres. En fait, si ce jour-là, je n'étais pas allé prendre le métro, peut-être que Jo n'aurait pas franchi le pas à un autre moment. On se connaissait, parce que pour moi, c'était...
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Voilà, il faisait partie des grands. Tu sais, quand tu es jeune, tu as deux ans ou deux ans et demi d'écart, c'est énorme.
C'est énorme.
Pour moi, c'était les grands.
Ouais.
Et j'allais les voir danser quand j'étais petit. Et c'est vraiment des moments magnifiques.
Et quand tu es jeune et petit, c'est encore plus compliqué. Merci d'avoir été avec nous, Isabelle Marquès.
Moi, j'étais un grand
et
petit.
Merci. À lundi. Bon week-end. Ayam, reste avec nous. Culture Média continue.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie d'Ayam qui a sorti un EP et qui sort un second EP, qui est un deuxième EP, parce qu'il y en aura un troisième et un quatrième. Ça va sortir le 17 septembre. L'un s'appelle Première Vague, l'autre Deuxième Vague. Donc j'ai mis une troisième puis quatrième. L'autre bonne nouvelle, c'est la tournée qui redémarre. Ça va de Nancy le 19, Reims le 20, Genève le 22, Lyon le 23, Besançon, Annecy, Strasbourg, Le Havre, Niort, Nantes, Rouen, l'Olympia à Paris, Bordeaux, Toulouse, Nîmes, East, Marseille, Rennes, Brest. J'ai remarqué ça, mais il n'y a pas des zéniths, ce sont des petites salles. C'est un choix.
On commence par les petites salles.
Oui. Et après, il y aura les zéniths.
On a toujours aimé les petites salles, on a toujours aimé être proche des gens.
Ouais.
Et on a commencé comme ça, donc on revient à nos amours. Et puis après, on enchaînera sûrement au printemps par les Zénith si... Bon, je suis très prudent maintenant sur la question de planning.
Ça fait déjà
de
deux fois qu'on annonce des tournées.
Parce que annonce et annulation, c'est l'autre de
c'est très compliqué pour les artistes indépendants en ce moment. Je voudrais juste que les gens fassent preuve de compréhension. Pour des artistes aujourd'hui comme nous, mais il n'y a pas que nous, il n'y a pas qu'Aya, mais il y a des tas d'artistes qui vivent que du live.
Ouais.
C'est pas de revenus sans aide. Voilà, depuis un an et demi. Donc on essaie de garder le sourire, de se battre, de faire des choses...
comme et on disait, crédit à l'épicerie.
Comme on disait, non, on veut rien, moi je veux rien. Quoi qu'il en coûte, je vais faire que payer, c'est pas grave. Ce que je disais dans l'émission, IAM Concept, on n'est pas payé, mais qu'est-ce qu'on rigole? Au moins on rigole, c'est l'essentiel.
Et c'est pas une petite tournée quand même, c'est une tournée Live Nation. Je veux dire ce que c'est le numéro 1 mondial des tournées, ceux qui organisent les tournées de Madonna, de U2 et même de BTS, les stars de la K-pop coréenne.
Par exemple,
et IAM.
Les choix d'IAM, par exemple, de faire des petites salles. On est clair là-dessus, après j'arrête le chapitre économique, mais économiquement on est tellement nombreux que ce sont des économies d'équilibre.
D'accord.
C'est un choix du groupe d'être près du public. Après, effectivement, on gagne nos vies dans les Zénith, on gagne nos vies dans les festivals, et c'est une bonne chose. Je pense que c'est bien pour un groupe comme IAM aujourd'hui,
nous, on a toujours fait
d'être loin du public des fois, et des fois très près aussi.
C'est pas le même rapport.
Voilà, il y a un rapport.
Et puis le rap, il est né dans ce type de salle aussi, dans les
bien
salles...
Sûr.
Pas forcément très grande, avec un plafond bas et les gens très proches. Et
l'énergie.
Plus de monde sur scène que dans la salle parfois.
À l'énergie, ouais.
Je rappelle les dates.
Il a commencé comme ça, ouais.
Ça démarre le 19 octobre, ça se termine à Brest le 25 novembre. Il y a plein de dates. Vous allez sur les sites internet, vous trouverez votre ville. Margot Barallon, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Je ne retrouve plus votre page, mais ce n'est pas grave. Mais je sais qu'on va parler de série avec vous.
Oui, la série Jeune Égolerie, sortie sur OCS. Vous receviez hier dans ce studio Agnès Hurstel, la créatrice, et Marie Papillon qui joue dedans. Et donc je suis là ce matin pour vous confirmer que c'est une série très réussie, 8 épisodes de 22 minutes à dévorer sans modération. Alors l'histoire, c'est celle de Prune, 25 ans, apprentie humoriste qui joue le soir dans un petit club de stand-up. Bon, et puis c'est la règle du stand-up, certains soirs ça marche pas très bien, et là, dans ce club, quand personne ne rit, la règle, c'est que t'as un gage. Et donc un soir, Prune ne fait rire personne, et son gage, c'est d'aller rouler une pelle à un mec un peu vieux qui a, je cite, la tête d'un papier peint. Sauf que, eh bien, 2 mois plus tard...
J'ai pas fait le ménage de l'été, mais parce que j'ai rencontré un gars que j'ai pas eu le temps et je t'ai pas dit.
Et quel gars?
Un mec hyper drôle.
Plus que moi?
Non. C'est du lourd.
Comment, il est gros? C'est pas grave.
Il est marié?
Il est bègue?
Il est roux?
Non, mieux.
Il pleure quand il jouit? Il prie avant de se prendre un doigt? Je sais pas, moi.
Est-ce que tu te souviens du gars à qui j'ai roulé une pelle grâce à toi au club en juillet? Le mec un peu vieux et dépité?
Et voilà, ouais. Prune est donc complètement amoureuse de ce type un peu vieux et dépité, Francis, 47 ans. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de son frère et de ses parents.
Il perd ses cheveux déjà?
Mais non! Dingue!
Et par rapport à moi, il est comment?
On pense avoir plus de ce type. Affiliation politique, casier judiciaire, groupe sanguin.
T'as pas des toilettes sèches à creuser, toi?
Non, en vrai, tu devrais te renseigner si tu veux rester avec lui.
Mmh. Si ça se trouve, dans 15 jours, il sera peut-être mort, ce Francis.
C'est super drôle, ça, maman.
Bon, mais jusqu'ici, ça ne va pas si mal. Prune assume complètement la différence d'âge, jusqu'à ce qu'elle débarque chez Francis un soir et découvre qu'il lui a caché qu'il avait une fille, Alma.
Mais ouais, parce qu'elle devient belle-mère malgré elle. J'ai vu les premiers épisodes de la série. Margot, il faut dire qu'en plus, cette enfant, cette Alma, elle est insupportable.
Exactement. Alma, c'est une peste avec des obsessions bizarres. Elle est fan de Napoléon. Elle porte un pyjama aux couleurs de l'Union européenne. Mais alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est une formidable matière pour le stand-up. Je vous laisserai regarder la série pour voir si vous confirmez. Et donc, Prune, en fait, va s'inspirer de ce qui lui arrive dans la vie pour la scène. Et là, elle fait un carton.
Il aurait pas pu juste avoir un chat. Tu vois, juste un chat en garde alternée avec son ex. Un chat, c'est cool. Un chat, ça meurt. Bon, dans 17 ans, mais quand même, ça meurt. Un enfant, non. Je veux dire, elle, dans 17 ans, elle sera toujours là, Minnie Merkel. Alors que moi, dans 17 ans, ben, je changerai les couches de son père.
Alors, évidemment, vous vous en doutez, raconter toute sa vie perso sur scène, ça va commencer à un moment à être un petit peu dangereux.
Alors moi, j'ai adoré, j'ai pas tout vu, j'avoue. Margot, qu'est-ce qui vous a plu dans cette série?
Eh bien, d'abord que c'est une pure comédie, on l'a entendu. Il y a des mouvements plus émouvants hein, aussi.
surtout à la fin de la série. Mais le côté comique est assumé à fond. C'est très drôle. C'est pas si fréquent dans les séries françaises de faire vraiment de la comédie. Ensuite, c'est une série qui a un charme fou, très spontané, très bien écrite aussi, et qui aborde de vrais sujets, comme celui de la maternité, évidemment. Prune en parle justement avec sa mère lorsqu'elle est obligée de garder sa nouvelle belle-fille.
Je ne sais pas gérer cette situation. Je ne sais pas gérer cet enfant.
Ah non, mais c'est toujours terrible, la maternité. Tu te rends pas compte. J'ai un souvenir terrible de ta naissance. Terrible.
Oui.
Tu me tirais sur le sein, j'avais les seins en charpie. En fait, j'étais quasiment plus une femme, en fait. Pendant des mois, après, j'avais peur que tu meurs.
Quoi ?
Et j'avais qu'une peur, c'est de t'écraser.
Faut l'étouffer dans la nuit, elle peut mourir.
Enfin, elle peut mourir de plein d'autres façons, tu sais. Après, il y a la mort subite du nourrisson. Ça, c'est très angoissant aussi.
Mais quoi, c'est quoi ce truc ?
Quand j'y réfléchis, en fait, ça a gâché ma vie.
Voilà.
Elle dit ça à sa fille.
Alors, c'est pas parce que c'est drôle qu'il n'y a pas un fond de sérieux aussi là-dedans. Et c'est aussi ça qui fait la réussite de Jeune Égaulerie, prix de la meilleure série française au Festival Sérimania. Et vraiment, c'est mérité.
Et je confirme, merci beaucoup. Vous êtes fan de séries, les gars ?
Oui, moi, je suis pas mal de séries. Hein.
Et là, ça vous est bien rire.
Oui, oui, c'est bien.
Humour,
on a moins aimé Margot, le mec vieux de 47 ans.
Celui, est-ce qu'il perd ses cheveux ?
Je n'osais rien dire.
Non, Margot, il ne perd pas, il les rase.
Dans un instant, on va parler pommes de terre et cinéma. Oui, ça existe, c'est pas un camoulox. A tout de suite sur Europe 1.
9h-11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel.
En compagnie de Shuriken et d'Akhenaton du groupe IAM, et les garçons, on va parler de patates mais pas d'argent, on va parler de pommes de terre. Bonjour Charlotte Langrand.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous nous amenez comme toujours dans un voyage gastronomique, mais cette fois-ci c'est en plus un voyage temporel.
Oui Philippe, je vous convie à un banquet chez le duc de Chamfort. Nous sommes en 1789, un peu poudré, très perruqué, nous avons goûté à des plats somptueux quand soudain tout se gâte. L'homme d'église à la droite du duc interroge le cuisinier sur les petits chaussons qu'on nous a servis en amuse-bouche et il apprend qu'ils contiennent
de la pomme de terre.
Les tubercules. Mais pour qui nous prenez-vous ? Pour des Allemands ?
On dit que ça transmet la lèpre.
La pomme de terre est non seulement dangereuse, mais elle est aussi fade et vilaine.
Tout ce qui est sous terre est ignoble. Un bon cuisinier doit savoir ça. Truffes. Et pommes de terre, c'est bon pour les cochons.
Enfin, la truffe, c'est glaçant. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre ?
Alors, c'est la scène d'ouverture du film délicieux d'Éric Bénard qui sort mercredi avec Grégory Gadebois et Isabelle Carré. C'est l'histoire un peu romancée de la naissance du tout premier restaurant. Et donc, on y voit à quel point les goûts peuvent changer du tout au tout en fonction des époques. Parce que aujourd'hui, ce petit pâté à la truffe et à la pomme de terre, qui s'appelle donc délicieux, eh ben, il aurait sans doute sa place sur les tables étoilées en France.
Surtout la truffe.
Voilà, mais, voilà, à l'époque, la pomme de terre, comme le radis par exemple, ou les champignons, ou en fait la truffe, et bref, tout ce qui poussait sous terre était considéré comme ignoble, et tout ce qui volait dans le ciel était au contraire du plus haut raffinement.
Très lié à la religion, en fait.
Oui. Très lié à la religion, mais en vérité aussi, sachez que derrière ces légendes alimentaires, il y avait une histoire de gros sous. C'était l'Église, effectivement, qui, à l'époque, percevait des impôts sur tous les aliments, sauf sur les racines, et donc voulait en dégoûter les gens, d'où la nourriture pour cochons.
Bon, en même temps, vous êtes un peu complotiste, je crois.
Ça va être authentique. Avec le temps, ça n'a pas marché, Charlotte.
Ah non, ça n'a pas marché, un gros échec. Il existe aujourd'hui des milliers d'espèces de pommes de terre sauvages, hybrides, partout dans le monde. La pomme de terre, elle est universelle, un petit peu comme les pâtes. Elle a bien pris sa revanche, elle est là toutes les saisons, elle se prête à tout. On peut la faire en pomme de terre sautée, en purée, en gnocchi, à la vapeur, gratinée, farcie. C'est quasiment impossible
Juste un truc, est-ce que vous savez pourquoi elle était tant dépréciée ? C'est parce que dans les foyers pauvres en France, ils utilisaient les pommes de terre pour garder la chaleur. Ils les mettaient sur le chaud et comme la pomme de terre est un tubercule qui garde la chaleur, les gens l'utilisaient comme une sorte de chauffage.
Oui, oui, elle était très populaire, mais elle était aussi très chic à la fois. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a en permanence 8 variétés différentes dans les cuisines de l'Élysée. Non. Et pour la petite anecdote, en 2017, on a servi... Et sachez pour la petite anecdote qu'en 2017, on a servi à Donald Trump de visite à Paris à la Tour Eiffel du Port Noir de Bigorre avec des pommes paille faites à partir des pommes de terre des Belles de Neuilly-Plaisance parce qu'on cultive des pommes de terre en Seine-Saint-Denis.
Ouais, mais la recette qui remporte tous les suffrages, c'est la frite.
Ouais, oui, bien sûr. Et là encore, Philippe, c'était pas gagné au départ.
C'est quoi ça ?
Des pâtes aux frites pommes de terre. J'ai pensé qu'on pourrait la couper en long et faire frire les morceaux dans l'huile. Ça changerait.
C'est pas mauvais, mais c'est vilain. Ça marchera jamais.
Et oui, ça n'a tellement pas marché.
Oui, il a eu du nez, lui.
C'est ça. Ça n'a tellement pas marché qu'on en consomme donc aujourd'hui 11 millions dans le monde chaque année.
11 millions
des frites.
J'irais 11 milliards, moi, parce que 11 millions, ça paraît très très peu quand même.
Effectivement, alors il faut peut-être que je vérifie ça.
Ça fait un sixième de frites par français et par an, c'est très très peu.
En tout cas, avec la mondialisation des fast-foods, c'est la Chine qui est même devenue le premier consommateur de pommes de terre. Et puis bien sûr, je ne peux pas ne pas vous parler de la Belgique, hein, qui a fait de la pomme de terre tout un art. C'est un repas à part entière là-bas, c'est pas un accompagnement. On la mange dans des friteries, pas dans des restaurants. Et puis, elle doit absolument croustiller à l'extérieur et fondre à l'intérieur, sinon ce ne sont pas de vraies frites. Pour cela, le secret, vous savez ce que c'est ?
Je le sais, vous allez le dire, mais je le sais. C'est en deux fois.
Voilà, c'est de la cuire en deux fois. Dans un premier bain de graisse animale, de graisse de bœuf, pendant 7-8 minutes, à 180 degrés maximum. Ensuite, on la fait reposer 20 minutes sur une grille pour un petit peu enlever de la graisse, justement, avant de la passer dans un deuxième bain de graisse végétale, cette fois, toujours à 170 degrés pendant 7-8 minutes. Écoutez, si c'est pas délicieux, ça, je ne m'y connais pas. Et si vous voulez, on va même vous mettre la recette du délicieux, du petit pâté aux truffes et à la pomme de terre sur le site d'Europe 1.
On aurait plutôt préféré avoir des truffes.
En plus,
ici.
Ça doit être super léger, ça. Ouais, c'est bien,
c'est ça.
Justement, à la table des bons vivants, léger, mais le
oui,
programme.
Justement, l'invité, ça sera Grégory Gadebois pour le film Délicieux. Et nous vous parlerons aussi de la rentrée avec l'école comestible qui éduque les enfants au goût dans les écoles.
Ça, c'est très bien.
Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Charlotte Langrand.
Merci.
On marque une pause et c'est la dernière ligne droite de Culture Média. Il y a Marc-Antoine Lebray qui se prépare et qui va arriver toujours en compagnie d'Ayam. À tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1. Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Shuriken, d'Akhenaton, Ayam qui vient de sortir coup sur coup deux EP et qui s'apprête à partir en tournée. Vous allez faire des duos en tournée et vous allez faire venir des guests ou...
Je pense que sur certaines dates, on aimerait bien pouvoir inviter des personnes qui ont participé à nos albums. Ben, par exemple, Kalash dans Eldorado, Alain Aquino dans le morceau Mirage qui est dans le EP numéro 2.
Relo aussi, je pense que ça sera facile.
Et la Villiers ouais.
Et pourquoi pas un jour, c'est qu'est-ce que c'est?
Je pose la question,
ouais.
Car voici la référence qu'on peut entendre sur le titre Ruban Noir qui va sortir le 17, mais qu'on peut déjà vous passer en exclu.
Les yeux dans les yeux, face à face, pas de triche, trop d'enjeux dans les cieux. Nos têtes et les pieds sur l'asphalte, à faire du sale de salle en salle. Un grand coup classique, on déballe de la nuit trop plein les étals. Car au feu d'artifice, rap dénué d'artifice. De Mars jusqu'en Égypte, sur toutes les routes on s'agite. Et c'est pas terminé, on va se recroiser quelque part où personne n'est jamais allé. Si qu'on ça soit fait de gloire, je n'ai grand gueule, ouais, fallait nous voir. Passer sur ces rubans noirs, ouais. On the road again, again.
L'hommage et la référence à Bernard Lavilliers, ça peut-être dans la tournée. Il faudra un passe pour aller vous voir.
Je pense qu'il nous faut même un passe pour jouer sur scène. Donc oui,
je pose la question parce que vous êtes opposé au pass, à la vaccination obligatoire et au pass. Donc comment ça va se passer justement?
Mais malheureusement, on va faire en sorte de traverser ces mois en s'y pliant. Même je peux comprendre qu'une partie du public ne souhaite pas s'y plier. Mmh. C'est des choses qu'on a intégrées dans nos têtes. Hein. Surtout notre public est assez engagé. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont opposés. Donc on va faire avec. Ce qu'on dénonce en général. Pour être clair, c'est le côté non scientifique de l'application de cette mesure.
C'est-à-dire ?
C'est ce que j'ai dit hier en télévision. Tu as un pass dans le TGV, tu n'en as pas dans le métro. C'est pas scientifique, c'est politique. Tiens, par exemple, on était à Tours, il y a...
Non mais j'ai compris ce que vous voulez dire, ouais. Mais là je vais pas me faire l'avocat du gouvernement, mais c'est parce qu'ils ont sanctuarisé des domaines qui sont essentiels, qui sont l'éducation, qui sont le travail, donc les petits trajets. Donc pour un petit trajet, le RER, on ne demande pas de passe, et pour aller passer un week-end en TGV, on demande un passe.
La science, ça marche pas comme ça.
Et c'est une statistique, je ne suis pas médecin, mais voilà ce qui vous répond.
C'est les statistiques que le gouvernement utilise des médecins. Mais je prends une autre statistique.
On va prendre d'autres exemples parce que je voudrais savoir ce que vous pensez de la visite du président à Marseille, qui est votre ville, et comment vous l'avez ressenti, notamment cette phrase de Manuel Valls.
Il y a un échec collectif et ça veut dire qu'à mon avis, sur Marseille, il faut tout reprendre à zéro. C'est pas que de la responsabilité de l'État, c'est trop facile. Il faut tout raser. Il faut tout reconstruire, il faut repeupler autrement ces quartiers.
Repeupler autrement ces quartiers, comment vous prenez ça?
Comment t'expliquer? C'est bien parce qu'il y a toute une... Au moins maintenant c'est clair, Et en même temps le président, à chaque fois qu'il descend à Marseille, ça fait un tel tapage médiatique, ce qui veut dire que c'est très rare, c'est quand même la deuxième ville de France. C'est bien de savoir un peu le pays qu'on doit gouverner, comment
dans
ça fonctionne.
Dans une interview de vous, Akhenaton, c'était une confidence au Monde, Monde du 21 juin. Vous disiez que vous avez déjà vu beaucoup plus de violence quand vous aviez 12 ans.
Dans les, années 70 et 80, c'est extrêmement violent. Et je rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent que, par exemple, le nombre de morts par arme à feu, c'est l'année 85 qui a été la plus meurtrière à Marseille, beaucoup plus que les années qu'on connaît. Je pense que l'information a changé. Aujourd'hui, le fait divers fait partie de l'information quotidienne et la peur fait partie du quotidien des Français. Je pense que si on sort de ça, on arrivera à aller vers de beaux lendemains dans ce pays. Si on reste dans une spirale de peur généralisée sur tous les sujets, on va au-devant de gros problèmes, parce qu'on a l'impression que tout va mal, alors que c'est faux. Il y a des choses dans ce pays, il faut juste voyager. Nous, on a la chance de voyager, et il y a des avantages à vivre en France qui sont énormes.
Et à Marseille ?
Il y a Marseille, mais il n'y a pas
que. C'est
notre
sujet.
Pas que, mais c'est vrai que quand on entend Emmanuel Valls parler de raser, ça m'évoque quelque chose qui me touche particulièrement, puisque ma famille a vécu dans un village, mais à la faute à Hitler, parce qu'il a déclenché une opération qui s'appelle Opération Sultan, et il a rasé toute une partie du quartier du Panier, et déporté tous les Italiens et les Corses qui y vivaient, et à Fréjus, et puis relogé à Plan de Cuques dans le village où j'ai grandi. Donc raser. Et dépasser les populations, c'est pas une belle image. Bon, en même temps, avec M. Valls, on est habitué. Le parti faussement socialiste, on est habitué à gauche en bois.
Vos propos font sourire Marc-Antoine Lebray, que je salue.
Bonjour.
C'est les stories de Lebray, chaque jour avec les stories de Lebray. Donc justement, des personnalités s'adressent à nos invités. Aujourd'hui, Akhenaton et Shuriken. C'est votre collègue Joey Starr qui est passé vous voir.
Ouais, je les gars, quoi. Non, c'est juste qu'il y a un truc que je comprends dans votre musique, quoi. C'est que vous, on comprend vos paroles, quoi.
Fabrice Eboué est avec nous ce matin.
Ouais, salut tout le monde. Bon, j'espère que ça va mieux à KH. Non, moi, j'ai lu les journaux au petit-déj, Akhenaton aux urgences. Putain, j'ai eu une petite frayeur, quoi, je te le dis. Non, autant ça aurait été Michel Sardou, bon, voilà. Moi, je reprenais des chocs à pic, mais là, grosse frayeur, quoi. Vraiment, un couloir étroit et obscur. Oh, c'est l'Empire du côté obscur ? Non, non, c'est Akhenaton aux urgences. Bon, je savais pas si j'allais faire celle-là, mais je l'ai quand même fait.
Ouais.
Non, c'est l'hôpital français. Voilà.
Après coup.
Bon, ravi de voir que tu vas mieux, surtout qu'en ce moment, Marseille est au centre de l'actualité avec les règlements de compte, tu l'as dit, Philippe. Donc moi, j'aimerais rassurer les gens, à Marseille, les plus flingués, c'est pas les dealers, c'est les joueurs de l'OM, quoi, je veux dire.
Raphaël Mesrahi a tenu absolument à venir vous interviewer.
Bonjour, Ayem. Hello, je suis. Je traduis au cas où certains ne comprennent pas. Alors, Akhenaton, vous êtes donc né en -1371.
C'est ça.
Ah, pardon, c'était mon interview pour Le Pharaon ou Michel Drucker, je ne sais plus. Bon, je passe à Shuriken, qu'on appelle ici Geoffrey. Godefroy.
Je te remercie.
Je comprends toujours. Donc voilà.
Bon, vous les avez toutes faites.
Moi, j'ai tenu à venir, en fait, parce qu'on a plein de points communs. Alors, déjà, vous êtes de Marseille. Et moi, je suis de Troyes, dans l'Aube. Et en voiture, en fait, c'est seulement à 5h30 de Marseille.
Donc, ça rapproche.
Voilà, en train, c'est encore plus rapide. Il faudrait juste qu'ils installent une gare à Troyes. Et puis sinon, deuxième point commun, vous et moi, c'est que vous aussi, vous avez l'air de grave vous emmerder pendant mon interview. Bon, pour terminer, je voudrais juste raconter une anecdote. En fait, lors de votre premier concert au Vieille Charrue, il y a plusieurs années déjà, il y avait un énorme drapeau avec le logo IAM.
Ouais.
De 2 mètres sur 2 mètres, c'était marqué Ayam casse la baraque. Bah, ce drapeau, en fait, il était agité par un fan qui s'appelle Marc-Antoine Lebray.
Oh, c'est voilà. Un truc de fou, ça remet. Voilà. Avec beaucoup de drapeaux de Bretons,
voilà,
et le grand drapeau Ayam, c'est voilà. Un truc de fou, et 2003 ou 2004.
Voilà, je n'ai pas trouvé encore la date exacte, j'ai des photos, mais par contre, voilà, c'était vraiment un grand moment, et bravo à vous. Vous avez dû être en galère, parce qu'après j'ai vu qu'au niveau des vidéos, il galérait, le drapeau était tellement grand en fait, qu'on ne voyait pas l'écran.
Génial. Bravo merci beaucoup.
Merci Marc-Antoine Lebray.
Merci beaucoup.
Rencontre à nouveau, merci tout le monde. Merci d'avoir été avec nous, Shuriken, Akhenaton. On se retrouve lundi à 9h pour Culture Média avec Antoine Decaune, qui a parlé de son émission Profession sur Canal+, et puis la comédienne Zabou Bretman pour une pièce Dorothy à partir des œuvres de Dorothy Parker. Juste après le flash, c'est Julia Vignali et Mélanie Gomez pour Bien fait pour vous. Bonjour, quel est le problème du jour ?
Oui, bonjour Philippe.
Ah, bonjour.
Aujourd'hui, on va se poser une question très importante. Est-ce que le job idéal existe ? Et si oui, est-ce qu'on a le job idéal ? Ou est-ce qu'il faut en changer ?
C'est bien, on se posera la question. Nous, je pense qu'on est bien, hein, Julien, n'est-ce pas ? Bon, et puis on reçoit un deuxième invité dans la partie de santé de cette émission. On parlera
parlera de l'ennemi des parents à cette rentrée, les poux. Comment vérifier que notre enfant en a pas déjà sur la tête, et puis surtout comment s'en débarrasser une fois pour toutes, ce qui marche et ce qui marche pas. C'est bientôt, c'est dans un instant, c'est dans Bienfait pour vous.
J'adore cette alliance. Alors les poux, je pense que c'est pas un problème de nos invités. En revanche, le métier idéal, je pense que c'est faire partie d'Ayam. C'est Shuriken.
Tu verrais les cheveux de mes enfants, tu
c'est vrai,
ouais.
Ils sont comme ça, ouais. Angela Davis. Shuriken, Akhenaton, merci d'avoir été avec nous. Culture Média revient lundi 9h. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.